Bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Merci de nous rejoindre pour votre santé, votre avenir sur VOA Afrique, The Voice of America depuis Washington DC. À la présentation, Nanit Talani. La migraine fait partie de la grande famille des maux de tête ou céphalées. C'est une crise qui apparaît progressivement et qui est précédée ou non de signes annonciateurs. La migraine est unique par sa durée, son intensité et par sa douleur qui est ressentie en général d'un seul côté de la tête ou localisée près de l'œil. La douleur est perçue comme des pulsations dans la boîte crânienne et elle est aggravée par la lumière, le bruit et parfois les odeurs. La migraine peut aussi s'accompagner de nausées et de vomissements. Comment prévenir les migraines? Comment les traiter? Comment vivre avec les migraines?
Il existe ce qu'on appelle le traitement de la crise de migraine. Elle consiste premièrement en se mettre dans un endroit sans trop de bruit, sans trop de lumière. Et ça, ça diminue fortement l'intensité de la douleur.
Voilà les questions auxquelles répondra le professeur Amadou Gallo Diop, chef du service de neurologie au CHU FAN. Il est aussi directeur de la coopération de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Ensuite, vous suivrez Carnet de santé dans la deuxième partie présentée par Linor Moudou.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
C'est le moment d'écouter notre discussion avec le professeur Amadou Gallo Diop sur la prévention des migraines. Bonsoir, professeur.
Et bonsoir.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons cette fois-ci aborder la question de la prise en charge et de la prévention des migraines. Mais avant cela, j'aimerais que nous revenions sur les causes des migraines.
Je serais pour vous citer simplement quelques exemples. Il y a des gens qui vont avoir leur crise de migraine à la suite de la consommation d'un aliment spécifique. Il y en a qui vont faire leur crise de migraine pour des facteurs climatiques, quand il fait trop chaud ou quand il fait trop froid. Il y en a d'autres qui vont la déclencher en respirant un produit toxique ou pas forcément toxique, mais auxquels ils sont sensibles, ou bien lorsqu'il y a un environnement psychologique délétère, certains malades aussi peuvent voir leur crise de migraine se déclencher. Donc les facteurs sont nombreux et chaque malade finit par savoir qu'en faisant telle chose ou en étant dans tel environnement ou en consommant tel aliment ou telle boisson ou bien lors des périodes de règles chez certaines femmes, vous voyez, il y en a vraiment beaucoup.
Il est évident qu'on ne peut pas énumérer tous les facteurs.
On ne peut pas tous les citer, mais chaque malade finit par connaître un ou deux facteurs déclenchants de sa migraine.
Est-ce que les migraines constituent une des raisons pour lesquelles les gens viennent vous consulter?
Dans le monde entier, le premier motif de consultation est constitué par les douleurs. Et parmi ces douleurs, le mal de tête ou le mal de l'extrémité du corps, donc tête et une partie du visage, occupe une place prépondérante. Mais tout n'est pas migraine.
Tout n'est pas migraine. Que peut-il y avoir encore derrière un mal de tête?
Et parmi ces maux de tête, en dehors de la migraine et de certaines causes que j'ai citées, vous avez une bonne partie de maux de tête qui vont être des maux de tête liés souvent à un état psychologique, à une anxiété, à une dépression, à un mal-être ou à d'autres choses qui sont absolument subjective, avec un fondement psychologique grave ou souvent pas grave et qui vont être absolument fréquents. Mais en général, dans les sphères des neurosciences, que ce soit la neurologie, les sciences psychologiques, la neurochirurgie, vous allez avoir cette plainte qui est très récurrente. Et dans tout ce qui touche à la tête, les sinus, les oreilles, les yeux, donc, chez les ophtalmologues, les ORL, vous allez aussi avoir des plaintes qui tournent autour de cette sphère-là.
D'où l'importance de consulter un spécialiste.
Le but après du spécialiste, c'est de dire ça, c'est de l'ORL, ça, c'est de l'ophtalmologie, ça, c'est de la dentisterie, ça, c'est de la neurologie, ou ça, c'est de la psychologie ou de la psychiatrie. Oui, les gens viennent consulter, comme partout ailleurs en Afrique, comme partout ailleurs dans le monde, quand un mal de tête devient chronique, c'est-à-dire va durer quelques semaines ou quelques mois jusqu'à provoquer une certaine inquiétude qui doit faire consulter.
À quel moment devrait-on consulter un spécialiste ou un médecin quand on a mal à la tête?
Très tôt, parce que plus tôt on fait un diagnostic et mieux sera instituée la bonne prise en charge.
Une fois que le diagnostic est établi et qu'on sait que le patient souffre des migraines, est-ce que le patient peut juste se contenter de traiter ses migraines à la maison ou il doit nécessairement suivre un traitement avec un médecin?
Alors, la prise en charge de la migraine répond à certaines règles.
Et quelles sont ces règles?
Première règle, il faut voir s'il existe des facteurs déclenchants ou pas. S'il en existe, par exemple, si une personne dit, moi j'ai remarqué que chaque fois que je mange crevette ou chaque fois que je mange tel mets ou je bois telle chose, quelques instants plus tard, je déclenche ma migraine. Ou quand une jeune femme dit que moi c'est au déclenchement de mes règles que systématiquement ma migraine se déclenche. Ou quand il fait très chaud ou quand il fait très froid. Donc quand il existe un facteur déclenchant qu'on peut gérer, qu'on peut manager, il faut y prêter la plus grande attention, soit l'éviter, soit essayer de la maîtriser. Je sais que ce n'est pas toujours envisageable. Deuxième règle, il existe ce qu'on appelle le traitement de la crise de migraine. Elle consiste premièrement en se mettre dans un endroit sans trop de bruit, sans trop de lumière. Et ça, ça diminue fortement l'intensité de la douleur.
Quelle est la troisième règle? En quoi consiste-t-elle?
Troisièmement, vous avez consulté, le médecin vous a prescrit une ordonnance et en général, sur cette ordonnance, le médecin vous dira ce médicament-ci, dès que la crise est en train de s'installer, prenez-le tout de suite. Ou quand la crise est déjà installée, prenez ce médicament-là. Vous en prenez à telle dose par jour. C'est ce qu'on appelle le traitement de la crise. C'est donc un groupe de médicaments, donc des antidouleurs, qu'on prend au début ou au cours de la douleur de migraine se déclenchant ou déjà déclenchée. Il existe la troisième composante qui est ce qu'on appelle le traitement de fond.
Quel est le but fondamental de ce traitement de fond?
Le traitement de fond est que beaucoup de patients négligent est très important parce que c'est un médicament dont le but et de diminuer la fréquence de récidive des crises douloureuses de migraine, ou si malgré tout la migraine se déclenche tout de même, l'intensité va être amoindrie parce que vous respectez ce traitement de fond.
Ce traitement de fond, est-ce un médicament? Comment est-il administré?
En général, c'est un médicament qu'on prend une ou deux fois dans la journée et qu'on doit prendre sur une période assez prolongée pour atténuer la crise de migraine ou diminuer sa fréquence de récidive. Mais plusieurs personnes, dès qu'ils n'ont plus mal, ils arrêtent le traitement de fond. Alors que c'est ça qui prévient la crise de migraine. Et enfin, la dernière composante sur laquelle j'anticipe, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie.
Et qu'est-ce que vous entendez par bonne hygiène de vie?
L'hygiène de vie, ce sont des règles de style de vie, des conseils qu'on donne à tout le monde, mais qui vont s'appliquer formidablement chez une personne qui souffre de crise de migraine. On peut en citer quelques-uns de ces recommandations ou quelques-unes de ces recommandations, quelques conseils. Premièrement, il faut veiller à avoir un sommeil nocturne de bonne qualité.
Comment peut-on mesurer la qualité d'un bon sommeil?
C'est-à-dire quand on finit par savoir le nombre d'heures dont on a besoin pour se sentir reposé et en forme, ce qui est variable selon les personnes, variable selon les âges, mais au minimum, un être humain, un adulte, doit s'arranger pour dormir au minimum 6 heures de temps la nuit. Minimum. Il y en a qui ont besoin de 7 heures, d'autres 8 heures, mais le minimum, c'est 6 heures de temps. Un sommeil, donc, où on respecte la durée du sommeil, et on se met dans un environnement qui favorise la qualité de sommeil.
Pourquoi est-ce si important de veiller à la qualité de son sommeil?
parce que durant le sommeil, il y a beaucoup de choses qui sont régulées, beaucoup de choses qui sont réparées, que ce soit dans le corps ou dans la tête. Deuxièmement, il faut veiller à respecter une activité physique sportive. Il faut que au moins 4 fois dans la semaine, on dit 3 fois, mais moi je dis 4 fois dans la semaine, il faut s'organiser, trouver le temps de faire une activité sportive.
Quelles sont ces activités sportives qui peuvent être recommandées dans ce cas-là?
Ça peut être de la marche, ça peut être du vélo, ça peut être de la natation, ça peut être de la danse, ça peut être du football. On fait ce qu'on peut faire et ce qu'on a envie de faire. Mais bouger au minimum pendant 30 minutes et 3 ou 4 fois dans la semaine. Troisième recommandation, il faut veiller à avoir une hygiène alimentaire, évitant les excès de sel, de sucre, de matières grasses, et veiller à boire suffisamment d'eau dans la journée.
Pourquoi il est important de boire l'eau et quelle est la quantité d'eau qu'on devrait boire chaque jour?
Beaucoup de personnes souffrent de plusieurs types de douleurs et quand vous les interrogez, ils ne boivent pas. On ne boit pas suffisamment d'eau. Alors qu'un adulte doit boire au minimum 1,5 litre d'eau par jour entre son réveil jusqu'à 20 heures. Un enfant, au minimum, environ 1 litre d'eau dans la journée. Je dis 20 heures parce que quand on boit trop tard le soir, on risque d'avoir des envies nocturnes qui vont vous réveiller et qui vont perturber la qualité de votre sommeil.
Et qu'en est-il du stress, professeur?
L'autre conseil est plus difficile à respecter. Il faut essayer d'éviter tous les facteurs de stress, que ce soit des stress personnels, professionnels et autres, mais il faut en tout cas essayer de prendre la vie avec certaines philosophies, surtout quand les facteurs de stress déclenchent votre migraine.
Nous vous remercions beaucoup, professeur, pour votre disponibilité.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
C'était notre entretien avec le professeur Amadou Gallo Diop sur la prévention des migraines. Maintenant, place à Carnet de Santé présenté par Linor Moudou.
Cette semaine, dans Carnet de Santé, quel est l'impact de la maladie COVID-19 sur la santé mentale? Nous irons au Kenya pour un reportage. Un expert partage quelques conseils afin de mieux prendre soin de sa santé mentale. Ensuite, une pharmacie aux États-Unis permet aux patients rentrés en Afrique d'avoir accès à leur traitement, malgré la distance. C'est dans cette édition de Carnet de Santé. Bonjour, Lénore Moudou en votre compagnie. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de Santé. Le nombre de cas de COVID-19 continue d'augmenter dans le monde, ainsi que l'anxiété associée à cette pandémie. Pour beaucoup de personnes, la peur, l'inquiétude et le stress sont des réalités à confronter au quotidien. Selon les experts, les effets du nouveau coronavirus sur la santé mentale sont aussi essentiels à traiter, tout comme les effets sur la santé physique. Partons au Kenya, où le ministère de la Santé affirme que le nombre de cas de santé mentale a considérablement augmenté pendant cette pandémie. Environ 40% des patients de COVID-19 hospitalisés souffrent de problèmes de santé mentale, tels que la dépression. Reportage de Mohamed Youssouf, récit Thierry Kaori.
Sheila Ourenon est venue rencontrer son conseiller pour obtenir de l'aide car sa santé mentale s'est aggravée au cours des derniers mois.
I just wanted to be alone.
Je voulais être seule, je voulais parler à personne. Je ne voulais rien faire, mais maintenant je suis revenue à mon état normal. Je peux faire quelque chose. Je peux même écouter de la musique comme car je suis revenue à mon état. Maintenant, avec la séance de thérapie, je sens le besoin de sortir et de dire que je souffre de troubles bipolaires comme maladie mentale.
Ce petit centre du comté de Nankuru accueille plusieurs patients souffrant de différents problèmes de santé mentale.
Nous les aidons simplement à avoir une résilience psychologique pour se rendre compte que même pendant cette pandémie où les risques de dépression sont élevés, ne signifie pas que c'est une saison qui sera là pour toujours. Mais pendant ce processus, ils peuvent avoir une résilience psychologique pour qu'ils puissent faire face et comprendre qu'ils peuvent encore se ressaisir.
L'Organisation mondiale de la santé définit la santé mentale comme étant le bien-être dans lequel un individu réalise ses propres capacités et peut faire face aux stress normaux de la vie. Cette mère de 3 enfants a souffert de symptômes de type COVID-19 en mars. Elle a été récupérée par des agents de santé vêtus d'un équipement de protection.
Vous trouverez 1, 2 ou 3 personnes qui vous comprennent et vous parlent, mais ce sont ceux qui sont si analphabètes qu'ils ne comprennent pas que vous êtes réellement guéri.
Frank Nienga dit que de nombreux Kenyans souffrent de maladies mentales sans le savoir. Si vous prenez l'exemple d'une famille de 5 personnes, 2 parents et 3 enfants, à un moment de leur vie, l'un d'entre eux souffrira d'une santé mentale d'une manière ou d'une autre. En d'autres termes, 20% des Kenyans, que cela nous plaise ou non, auront à un moment ou à un autre un besoin de santé mentale. La pandémie pesant sur l'état mental des gens, le gouvernement kenyan exhorte ses citoyens à demander de l'aide s'ils en ont besoin en cette période difficile.
Jeff Swicord de la VOA s'est entretenu avec une thérapeute en santé mentale à Washington DC qui partage quelques conseils afin de garder une bonne santé.
J'ai voulu devenir thérapeute lorsque j'ai commencé à aller à l'université. Je pensais d'abord que j'allais devenir enseignante et je me suis inscrite au cours d'introduction à la psychologie. J'ai immédiatement été fascinée et j'ai voulu en savoir plus sur les gens, comment ils fonctionnent, pourquoi ils agissent et disent certaines choses plutôt que d'autres. Je pense que j'ai toujours été la personne vers qui les gens se tournent pour parler ou pour un coup de main. J'aime vraiment ça. Donc il n'y a pas eu d'événement ou une raison spécifique pour laquelle je suis devenue thérapeute. J'aime juste aider les gens. Tout le monde travaille de la maison et passe davantage de temps avec la famille. Maintenant que le temps de trajet du travail à la maison a disparu, les gens n'ont plus ce moment pour décompresser, se déconnecter et s'éloigner de toute l'euphorie quotidienne. Du coup, les gens ont du mal à créer de nouvelles routines. Cela engendre beaucoup de stress et d'anxiété. Il est vraiment important que les gens définissent une routine, car lorsqu'ils se rendaient au travail, ils avaient une routine. Ils se réveillaient à une heure précise, faisaient du sport à une heure précise, dînaient à une heure précise. Il faut essayer de recréer toutes ces choses et également des moments où vous ne pensez pas à la pandémie, où vous n'en parlez pas. Des moments sans stress et sans pensée négative. C'est vraiment utile pour vous-même et pour vos relations. En ce moment, tout le monde se pose les mêmes questions. Où aller pour être loin de la maladie et rester en bonne santé? Que faire si les gens veulent venir me rendre visite? À qui dois-je le permettre? Dois-je porter un masque ou pas? Les informations sont-elles véridiques? Faut-il les écouter? Avec la pandémie, l'anxiété s'intensifie. Il faut donc essayer de trouver de petites choses que vous pourriez faire pour garder le contrôle de votre esprit, de votre corps, de votre respiration, entre autres. Il faut aussi changer sa façon de voir la situation et entraîner le cerveau à penser à ce que vous pouvez faire en ce moment et non à ce que vous pouvez réaliser dans l'immédiat, dans votre vie.
L'OMS conseille de manger sainement pour renforcer le système immunitaire afin de mieux faire face à la pandémie du nouveau coronavirus. Mais le confinement pour contenir la propagation du virus a non seulement limité l'accès à des aliments sains, mais il a également affecté certaines habitudes alimentaires. Alima Abdulraouf a réalisé ce reportage à Abuja, au Nigeria. Il est repris ici par Yakuba Ouedraogo.
Ce marché de fruits et légumes à Ouzé, à Abuja, est le lieu où Christiana Balogun, une résidente de la capitale nigériane, achète ses fruits depuis des années. Elle fait très attention à ce qu'elle mange pour s'assurer une alimentation saine. Mais comme d'autres endroits, ce marché de fruits frais a été fermé pendant les plus de 2 mois de confinement imposé en raison de l'épidémie de coronavirus. Cela a laissé Christiana avec des choix très limités et ses habitudes alimentaires ont radicalement changé.
J'adore les fruits. Alors oui, les fruits étaient difficiles à avoir. Faire les courses, comme je l'ai dit plus tôt, a été difficile car il fallait savoir quand son magasin est ouvert. Parfois, votre restaurant préféré ou votre endroit préféré n'est pas ouvert. Et puis, j'avais en fait beaucoup mangé. Et quand je dis beaucoup, je veux dire beaucoup. Parce que j'ai pris beaucoup de poids. Donc, c'est négatif. Cela m'a affecté négativement.
En plus de son problème de manque d'accès à des aliments nutritifs pendant le confinement, il y avait le besoin irrésistible de grignoter continuellement des aliments tout au long de la journée à cause de l'ordre de rester à la maison.
L'ennui fait beaucoup grignoter des aliments. Lorsque vous dormez et vous vous réveillez et que vous ne faites rien, vous mangez essentiellement. C'est comme si vous dormez, vous grignotez des trucs, vous regardez Netflix, vous grignotez des trucs, vous parlez, vous grignotez des choses. Et oui, l'ennui vous fait surtout beaucoup manger.
Une spécialiste en nutrition, le docteur Goodness Shidi Aniaou, affirme que de mauvais choix alimentaires étaient un gros problème au Nigeria, même avant la pandémie de coronavirus. Selon elle, le confinement n'a fait qu'empirer une mauvaise situation. Elle a appelé les gens à s'assurer que la nourriture qu'ils mangent est riche en nutriments pour préparer leur système immunitaire à résister à toute maladie opportuniste.
Dans cette période particulière dans laquelle nous vivons actuellement, on s'attend à ce que les gens deviennent conscients qu'il y a un problème et que leur système immunitaire doit être consciemment équipé. C'est comme être sur la défensive, mener une vie défensive. Les gens doivent consciemment s'opposer à la consommation d'aliments moins riches en fibres et transformés. Plus vous en mangez, plus vous vous prédisposez aux maladies non transmissibles liées à l'alimentation. Car vous n'êtes même pas assez actif pour brûler le glucose accumulé dans votre corps. Et cela pourrait être un problème pour vous.
Bien que l'Organisation mondiale de la santé ait clairement indiqué qu'aucun aliment ou complément alimentaire ne peut prévenir ou guérir l'infection au COVID-19, elle affirme néanmoins qu'une alimentation saine est importante pour soutenir le système immunitaire, en particulier pendant cette pandémie.
Wuni Tuwelde a ouvert Jewel Wellness Pharmacy il y a quelques années dans le but d'aider les communautés locales et les Africains aux États-Unis. La pharmacie a également été d'une grande aide pour les personnes qui sont retournées en Afrique et qui ont encore besoin d'ordonnances de leurs médecins aux États-Unis. Radia Adam nous en dit plus dans ce reportage. Le récit est de Mohamedou Oumfa.
Après avoir travaillé pendant quelques années dans une pharmacie CVS, Woini Tuwelde, une immigrante érythréenne, a ouvert sa propre pharmacie Jewel Wellness, basée à Arlington, en Virginie. Bien que la pharmacie soit au service des résidents locaux, elle est d'un grand secours pour les Africains qui sont retournés en Éthiopie et en Érythrée.
Ce que nous faisons pour eux, c'est de collaborer avec leurs médecins, d'obtenir l'ordonnance, fournir les médicaments et les remettre aux membres de leur famille pour qu'ils soient envoyés par la poste afin que les patients soient ravitaillés sans interruption.
Woini Tuwelde affirme que sa pharmacie travaille maintenant avec des start-up africaines pour favoriser la télémédecine sur le continent.
Beaucoup de gens utilisent la télémédecine pour fonctionner, pour leurs soins, et cela peut aussi fonctionner pour l'Afrique. Il y a des start-up qui font cela aussi pour l'Afrique, et notre espoir est de collaborer avec elles et d'utiliser cette pharmacie comme leur pharmacie.
Catherine Anne travaille à la pharmacie Joulé depuis près d'un an. Elle dit qu'elle apprécie particulièrement le volet communautaire.
Ici, nous sommes en mesure de fournir notre temps et nos efforts, tout ce dont ils ont besoin pour nous assurer qu'ils comprennent bien les médicaments qu'ils prennent. S'ils ont un problème, ils peuvent nous en parler.
Pour Woini Tuwelde, c'est ce service personnalisé qui fait le succès de sa pharmacie.
Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité sur le nouveau coronavirus, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et vos réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, on se lave les mains fréquemment et on utilise un masque en public. Portez-vous bien et à très bientôt.
C'est la fin de ce magazine Votre santé, votre avenir. Nous étions en compagnie du professeur Amadou Gallo Diop sur la prévention des migraines. Le professeur Amadou Gallo Diop est chef du service de neurologie au CHU FAN à Dakar. Il est aussi directeur de la coopération de l'université Cheikh Anta Diop dans la capitale sénégalaise. Nous vous avons également présenté Carnet de santé avec Linor Moudou. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Cheikh Thierro. À la réalisation, Tony Parker. À la présentation, Nani Totalani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.
Le son est méchant, très tranquille. Et ma double prod. Ah, pour rien comme ça, on te jalouse. Hey, ton cœur est blanc, il te veut du mal. Oh. Tu es gentil. Sans méchant, toi-même tu comprends rien. Oh. En réalité, la réalité, moi je te le dis, c'est ta lumière qui domine le cœur noir. Oh. Ne les calcule pas, tu as la grâce de Dieu sur toi. Hey. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher, tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter, tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Lesquels eurent raison? Kérosène équilibre, Kiki Benzeni, Molaré. Souvent la méchanceté des hommes te fait tellement mal que tu n'as même plus envie d'aider quelqu'un. Pendant que tu fais des efforts pour que le bon y avance, il faut tout pour que tu tombes. Mais toi, tu dois les ignorer. En vie Lucien, faut pas avoir peur, rien ne peut t'arriver. Mission sur cette terre, c'est Dieu qui a tracé. Eux-mêmes, ils vont le constater. Papa sans discours. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer.
VOA Afrique.
Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer.